Ouais, bonjour, j'ai un peu écouté la radio aujourd'hui et j'ai surtout écouté le discours de Chirac, c'est assez comique, qui nous dit que ben ouais, si on votait non, ça serait comme si on laissait passer le train en restant sur le quai. Ouais. Ben, peut-être qu'il y a pas mal de gens qui en ont marre d'être sur le quai aussi, hein. Peut-être aussi qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de monter dans un train qui va dans le mur.
Après la Côte d'Ivoire, voici le Togo qui met à mal le précaré français d'Afrique. Alors ce petit pays, peuplé de gens sympathiques, aurait pu s'engager dans la voie de la démocratie à la suite du décès de son dictateur Yadema, qui a régné sans partage et d'une main de fer pendant 38 ans avec la complicité de notre beau pays, la France. Mais là, voici que l'un de ses fils, soutenu par l'armée, s'est proclamé président, bafouant pour ce faire les règles les plus élémentaires de la démocratie, se moquant de son peuple dont il n'a cure, faisant bourrer les urnes, falsifiant les résultats jusqu'à obtenir ses 60% de voix et faisant emprisonner les jeunes patriotes. Nous sommes mardi, le Togo n'a plus l'espoir de se démocratiser, la guerre civile va s'imposer tout à fait naturellement. Et que va faire la France, notre beau pays, défenseur des grands idéaux de liberté, d'égalité, de fraternité? Que vont dire les médias? En parle-t-il seulement plus de 20 secondes? Monsieur Chirac laisse faire ce petit dictateur, lui-même fils de dictateur. Il sera le complice d'une guerre civile et sera responsable de l'abandon d'une autre ancienne colonie aux mains des tyrans, la laissant au chaos. Mais au fait, qui cela intéresse de parler de ce petit pays d'Afrique aujourd'hui? Je vais vous le dire, moi, personne. C'est comme la Côte d'Ivoire. Quelques morts et puis s'en va. 20 secondes au journal du soir et après plus rien. L'Afrique, tout le monde s'en fout. Aujourd'hui, le plus important, c'est le décollage de notre Airbus. C'est Olivier de Montélimar.
Dimanche 24 avril, le Togo vote. À Lomé, depuis plusieurs semaines, les cartes d'électeurs n'étaient pas remises aux Loméens et quand ils se présentaient pour retirer leurs cartes d'électeurs, ils se voyaient privés de leurs pièces d'identité nécessaires pour ça et n'avaient plus rien. Les moyens d'organiser des élections ne pouvaient être réunis dans ce petit pays d'Afrique de l'Ouest, exsangue mais courageux. 22 avril, le ministre de l'Intérieur togolais convoque la nuit les ambassades de France et d'autres pays pour demander le report des élections du 24 avril devant le manque de moyens. Il est limogé dans les heures qui suivent par Yadema fils. Dimanche 24, grave trouble pendant les pseudo-élections. Bulletin de vote qui arrive 3 heures en retard à B, fief de l'opposition. Urne dérobée par des individus cagoulés à Lomé. Silence assourdissant de Chirac et de son gouvernement. Aucun message pour dénoncer les graves atteintes. Chirac protège le fils de son ami défunt Yadema Gnassingbé, dictateur depuis 38 ans, avec l'appui de la France pendant tout ce temps. Dimanche soir, 3 morts dans les émeutes à Lomé. France Inter parle d'incident. Mercredi 27 avril, le Togo au bord de la guerre civile, j'entends sur France Inter. Et Chirac qui couvre, qui se tait, qui cautionne. Cette nuit, 35 ressortissants français ont trouvé refuge à l'ambassade d'Allemagne. C'est plus sûr que l'ambassade de France.
Ben, l'affaire Déhoud devrait bien nous faire réfléchir. Kamel a raison. On a tué sa famille, on est en train de l'assassiner. Comme les 20 000 emplois détruits grâce au pôle européen de développement, mis en place par Delors, papa de la bobo socialiste Martine Aubry, qui milite pour le oui à la Constitution européenne. Ce texte appliquera la même punition dans d'autres domaines. Il suffit de le lire. 220 millions pour des ou, c'est notre argent, pour des patrons crapuleux. Et ceci aussi bien sous les régimes de gauche que de droite. Alors à tous les gens qui vous appellent pour dire oui à la Constitution européenne, je leur dis qu'il ferait bien de regarder qui sont ces hommes et ces femmes politiques qui nous poussent à dire oui. Eh bien, ce sont ceux qui nous ont gouvernés à droite comme à gauche et qui se serrent les coudes. Ceux-là même qui ont vendu la sidérurgie, les textiles, ceux-là même qui ont arrosé de milliards des entreprises avec les fonds publics, des entreprises privées bien entendu, hein. Ceux-là même qui donnent la parole à ces patrons crapuleux, qui profitent de notre argent et qui nous virent et qui, en plus, ont toujours raison et qui privatisent notre patrimoine public. Il faut quand même le savoir. Alors il faut lutter et lire attentivement ce texte. Il faut vraiment le lire parce que ce que j'entends, ça n'est pas vrai. Ça ne sera jamais bon pour nos enfants. si c'est un texte qui se dit constitution, eh bien moi je vais vous dire, une constitution comme ça, c'est pas bon pour nous. Et n'ayez pas peur de dire non, parce que même si le non l'emporte, le jour se lèvera comme d'habitude. Salut Daniel, c'était Morissette, Paris 14e, au revoir.
Merci Morissette, merci à tous ceux qui ont laissé de nombreux messages sur le répondeur de là-bas, si j'y suis. C'est vrai que là on est un petit peu débordé, franchement débordé, parce que voilà, il y a la constitution et vous laissez des messages enflammés ou très précis, c'est ça le pire, c'est les plus longs et on n'a pas, il faudrait faire uniquement ça, c'est-à-dire que vous preniez le pouvoir sur cette émission, il n'en est pas question, donc on est obligé de réduire, et, hélas, le nombre de ces messages, beaucoup aussi sur ce qui se passe au Togo. Depuis plus de 40 ans, des voix s'élèvent pour condamner le scandale le plus long de la République, c'est-à-dire cette France-Afrique, dont nous voyons une fois de plus les sanglants effets. Aujourd'hui, on va faire plaisir à Morissette, on continue le troisième volet de Diou, l'histoire, la belle histoire de Monsieur Kim et de Kamel. On a beaucoup parlé de Kamel hier, aujourd'hui c'est Monsieur Kim, chacun son tour. Quelques messages et ensuite un résumé pour ceux qui ont loupé les chapitres précédents. Je rappelle le numéro du répondeur, 01 56 40 37 37.
C'est Hervé de Bordeaux. Ouais, j'écoute ton émission là, je viens d'apprendre que l'escroc a été naturalisé français, et ceux qui ont cramé dans l'hôtel à Paris, eux, ils attendaient leur naturalisation qui n'est jamais venue. Alors j'entends aussi les petits couillons là qui veulent voter oui sur ton répondeur. Bon, ben, s'ils ont envie d'être un peu gros naze et naïf, ils ont qu'à voter oui. Allez, bye bye.
Bonsoir, je viens d'ouvrir le poste, comme dit Monsieur Mervet. Et j'apprends que vous êtes, enfin, que vous parlez plutôt de l'Onguiba, et ça m'a fait un choc parce que je suis fille d'immigrés italiens qui étaient partis de l'Italie, bien entendu, comme vous le savez, parce que c'était la pauvreté, et ils ont travaillé dans les usines, du moins le père. Et donc, mon père travaillait dans une usine, et nous habitions en face, Cité La Fontaine, et ça me fait vraiment quelque chose parce que ce sont des souvenirs. Et de cette usine où on voyait la fonte dans la nuit qui était déversée, cette fonte rouge, rouge-jaune, et les petits wagonnets remplis de poussière de fer qui allaient se déverser. En fait, ce sont des souvenirs, quoi.
La Lorraine se souviendra longtemps de l'échec d'Ewou. Il y a 13 ans, trois usines devaient permettre la reconversion de centaines de personnes dans cette région sinistrée par la crise de la sidérurgie. Mais Daewoo Électronique a fait faillite et les trois usines viennent de fermer. Notamment celle de Mont-Saint-Martin où 550 salariés fabriquaient des tubes pour téléviseurs. Pendant plusieurs semaines de lutte radicale, les salariés ont occupé leur usine. Criblées de dettes, toutes les usines Daewoo Électronique dans le monde vont fermer. Comptes truqués, détournements, corruption, le scandale Daewoo est comparable à quatre fois celui d'Enron. Les grévistes sont d'autant plus exaspérés que la France a largement subventionné l'implantation de Daewoo en Lorraine.
Ça a coûté 1 million de francs par emploi. Ça veut dire, on t'aurait donné le million de francs là, tu restais chez toi, c'était pareil.
En 1986, Jacques Chirac, alors Premier ministre, fait appel aux Sud-Coréens lorsqu'il annonce son plan de relance industrielle. Pour sauver les emplois de Lorraine, l'État va beaucoup aider l'implantation de Daewoo. Entre 1989 et 1998, le groupe va bénéficier sous les gouvernements de droite comme de gauche de 46 millions d'euros d'aides publiques françaises et européennes. La France va aussi entretenir des relations étranges avec Kim Woo-chang, le sulfureux PDG de Daewoo. On le surnomme Chairman Kim, le patron Kim. Un temps génie des affaires, il a bâti un empire avec 200 000 employés. Électronique, automobile, textile, aucun secteur ne lui échappe. Mais Chairman Kim est rattrapé par la justice coréenne pour corruption. Il a versé 19 millions d'euros de pots de vin au président de la République sud-coréenne. Scandale national. Monsieur Kim aurait également détourné entre 20 et 35 milliards d'euros. Il est condamné à 2 ans et demi de prison, mais il disparaît à l'étranger avec la caisse. Parmi tous les privilèges accordés par la France, il a obtenu la nationalité française en 1987. Alain Juppé l'avait même fait commandeur de la Légion d'honneur avant d'envisager un moment de lui brader Thomson Multimédia pour un franc symbolique. À l'époque, l'affaire avait fait scandale. L'idée sera finalement abandonnée.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec François Ruffin, Monsieur Kim et Monsieur Kamel.
Flight number 2, arriving from New York.
C'est encore quelque chose, c'est quoi ici? C'est la mairie, d'accord. C'est marrant, les pierres elles ont toujours un aspect un peu gris. Hein.
Ouais, c'est... Bon, moi je suis habitué, mais quand il y a des personnes qui viennent d'autres villes, ils me disent comme quoi leur rue s'écrit.
Là on arrive devant l'usine, c'est marqué Bienvenue Dewou Orion en société anonyme. Sur le mur c'est marqué quoi? C'est marqué
Dewou voleur est un complice.
Dewou voleur est un complice. Qui parle ainsi? C'est Kamel. Kamel, on l'a rencontré hier et avant-hier dans ce reportage de François Ruffin. Kamel qui, en septembre 2004, a été condamné par le tribunal correctionnel de Briey à 3 ans de prison, dont la moitié soit 18 mois ferme et 30 000 euros de dommages et intérêts. Pourquoi donc? Pour l'incendie qui a ravagé l'usine Dewou Orion en janvier 2003 à Mont-Saint-Martin. Il a 35 ans, il est père de 4 enfants et il a fait appel de ce jugement. Or, le mardi 5 mai dernier 2004, 5 avril 2004, attendez, je suis en train de me tromper. Le mardi 5 mai 2004, l'avocat général près la cour d'appel de Nancy a requis une peine inférieure. Donc c'est pas la bonne date. Ça c'est le 5 mai, c'était au début d'avril. Voilà. L'avocat général près la cour d'appel de Nancy a requis une peine inférieure à celle infligée en première instance. Pourquoi donc? Bien parce qu'il n'y a pas de preuve contre Abdel Belkadi et certains éléments peuvent accréditer la thèse d'un incendie prémédité par le groupe Dewou. C'est pas exclu du tout, le groupe Dewou lui-même, afin de mettre fin à un conflit qui durait depuis 2 mois et de précipiter la liquidation de l'usine. Les coïncidences sont nombreuses, le nombre de gardiens a été réduit à 2 au lieu de 4, les extincteurs étaient vides et il n'y avait pas de pression dans les lances à incendie et la comptabilité avait été déménagée le jour même, etc., etc. Le jugement dans cette affaire sera rendu le 24 mai prochain. Bien, alors voilà pour Kamel. Maintenant, intéressons-nous à notre autre personnage qui est Monsieur Kim Woo-chung. Kim Woo-chung, il a 68 ans. Aujourd'hui, on l'appelle aussi Sherman Kim. C'est l'ex-PDG du conglomérat sud-coréen Daewoo, dont il est le fondateur. Il est recherché par toutes les polices du monde, d'abord par la police sud-coréenne depuis mars 2001 pour fraude comptable massive, détournement de fonds à des fins personnelles. La facture totale de l'escroquerie de monsieur Kim Woo-chung est estimée à 2,2 milliards de dollars, soit 1,66 milliards d'euros. En 2003, son nom figurait sur la liste rouge des personnes les plus recherchées par Interpol. Le KCT ou le syndicat sud-coréen, toujours en colère contre lui, les syndicalistes s'étaient rendus en France. En 1987, on l'a déjà indiqué à plusieurs reprises, monsieur Kim Woo-chung a obtenu la nationalité française et il a obtenu aussi sa... Il a été décoré également d'un ordre de la Légion d'honneur. toute chose qui mérite quand même un peu de précision, quelques indications, quelques enquêtes, eh bien c'est ce qu'a fait François Ruffin et c'est ce dont nous allons vous informer jusqu'à 18h. Là-bas, si j'y suis, Monsieur Kamel et Monsieur Kim.
Du Havre de la Ciotat, Adelsofen, Celatex, Michelin, Epeda, Ludanone, Marks & Spencer, les chaussures Bata, Levis, Giat Industries, Air Lib, Prince Aviation, Daewoo, Alcatel, EADS Aéronautique, Aventis, ACT, Matra, Grimaud Logistique, Alstom Saint-Ouen, Béguesset, Péchiné, France Télécom, Orangina, Mons, Tech2, Palace Parfum, Métal Europe, Bayer, Arcelor.
Moi, quand j'y suis allé, c'était en 96. Au moment où Daewoo allait racheter Thomson, Alain Juppé avait proposé de le vendre pour un franc symbolique. Et moi, je me trouvais justement en Corée du Sud. Et c'est là que Kim Woo-chung, président de Daewoo, s'est dit, tiens, il y a un journaliste de Libération qui est là-bas. J'avais pris contact avec eux, bien sûr. On va lui faire le grand jeu. Et du coup, j'ai visité, il m'a fait visiter les 10 usines groupes en Cadillac, en plus. Dans chaque usine, il y avait le directeur de l'usine, ses adjoints, quelques ouvriers en blouse blanche, au garde-à-vous, avec une grande pancarte marquée « Welcome Philippe Grangerot, Libération ».
Philippe Grangerot, Libération, c'est un des journalistes qui s'est intéressé à l'affaire Daewoo. Et quand on écoute Joli Môme, là, c'était cette accumulation de d'affaires. Évidemment, on peut très bien s'en mêler un petit peu les crayons, et voilà pourquoi, et en mêler un petit peu les comptes aussi par la même occasion, voilà pourquoi il nous a semblé intéressant de reprendre les choses dans l'ordre très calmement. Donc, Philippe Grangerot du journal Libération, en 1996, comme cette entreprise va s'installer dans notre beau pays, se rend en Corée, et il est reçu, comme il nous l'indique, en grande pompe par Monsieur Kim Woo-chung lui-même, dont nous allons découvrir les méthodes. Cet homme remarquable, adulé à l'époque en France, et pas seulement en France, dans le monde entier, une véritable success story à lui tout seul, puisque son principe, Son principe, et d'ailleurs le titre d'un de ses livres, c'est « Chaque rue est pavée d'or ».
Non, c'était un traitement de faveur. Hein. Il s'est même une fois excusé de ne pas m'avoir emmené en hélicoptère.
Et pour quelle raison alors il vous avez octroyé ce traitement de faveur ?
Alors l'idée, c'était bien évidemment de montrer sous un bon jour Daewoo au public français afin de retourner un peu l'opinion et de faire que effectivement l'opinion française accepte que Thomson soit vendu à Daewoo.
Et dans ce cadre-là, vous avez rencontré Chairman Kim.
Donc tout d'un coup, il est apparu devant moi, un petit bonhomme, un espèce de petit Napoléon de l'industrie sud-coréenne, en blouse blanche d'ouvrier. Et il m'a donné son livre qui s'appelle
Chaque rue est pavée d'or.
Oui, chaque rue est pavée d'or.
Et vous avez discuté avec lui, alors quel était le contenu de vos échanges?
Moi, je lui disais, mais alors, Daewoo, quand même, il y a 350% d'endettement. Alors, je trouvais ça quand même complètement énorme.
Ça veut dire que pour un euro qu'on possède, on a en fait 3,50 € d'endettement, c'est ça la...
Oui, voilà. Alors, bien sûr, des banquiers, tout ça, même français d'ailleurs m'avait expliqué, mais en Corée, c'est pas grave. En France, quand on a 30% d'endettement, c'est grave, mais en Corée, 350% d'endettement, c'est pas grave. On m'expliquait la parabole du vélo, c'est-à-dire tant que ça tourne, tant que le vélo roule un peu, il tombe pas. Et lui, en gros, me servait cette même soupe. Il avait fait venir dans un restaurant japonais de Séoul tous les grands comptables du groupe. Moi, j'étais tout seul, petit journaliste français, et tous ces grands financiers comptables me prouvaient, avec chiffres à l'appui, que tout allait bien chez Daewoo. Et donc, il y avait ça.
Qu'est-ce que vous écrivez d'ailleurs dans votre article de 1996?
Finalement, ça n'a pas du tout plu. L'article n'a pas du tout plu à Daewoo. D'autant qu'il m'avait donné énormément de cadeaux. J'ai tout laissé dans l'hôtel.
C'était quoi les cadeaux?
Ah ben c'est, ça pouvait être des appareils électroniques, des petites cuillères dorées.
Et donc, vous écriviez quoi dans votre article?
Sur le surendettement, j'écrivais clairement qu'il y avait malgré tout un doute sur la solidité financière de Daewoo. Et puis ensuite, j'ai décrit les entraînements spirituels, c'est-à-dire que les ouvriers, tous les 6 mois ou tous les ans, sont été convoqués à des cours d'idéologie du groupe, où on leur enseignait un petit peu des paraboles sur Kim Woo-chung. Par exemple, une fois, il a fait une tournée en Amérique latine et aux États-Unis, et il a réussi à ne passer que 5 nuits dans un hôtel parce qu'il maximisait ses voyages en dormant dans l'avion, en lavant ses chaussettes lui-même de manière à ce que il perde pas du temps avec les blanchisseries de l'hôtel. Il voyageait mais jamais avec un bagage qui mettait en soute parce qu'il perdait au moins 1 heure, 2 heures et entre-temps il avait le temps de voir un client supplémentaire. Donc on racontait ça aux ouvriers comme quoi le chairman Kim c'était vraiment l'as des as de la vente, que eux il fallait qu'ils fassent pareil, il fallait qu'ils chantent les chansons à la gloire de Kim Woo-chung en chœur. Donc ils le faisaient, mais en même temps, ils avaient tous un sourire en coin. Enfin, ils se rendaient bien compte que le vieux Kim Woo-chung, il leur imposait des choses qui étaient quand même très étonnantes.
C'est en 1986 à Séoul que Jacques Chirac, alors Premier ministre de François Mitterrand, rencontre le chairman Kim Woo-chung, et ils se lient tous deux d'amitié. Et ensuite, c'est Gérard Longuet, alors président du Conseil régional de Lorraine, qui va introduire le chairman Kim dans sa région, en Lorraine. En 1986, Kim Woo-chung, sa femme et ses enfants sont naturalisés, reçoivent la naturalisation française. Kim Woo-chung ne parle pas un seul mot de français, et pourtant il sera, lui et sa famille, naturalisés par un décret du 2 avril 1987. Philippe Grangereau de Libération.
Je découvre qu'en fait, il a été naturalisé français, lui, sa femme et ses 2 enfants. Et il est naturalisé français sous la rubrique « Service exceptionnel rendu à la France ». Donc c'est très étrange.
D'accord, donc c'est le 2 avril 1987, c'est ça?
Oui, oui. Et donc, on découvre à la faveur de ça aussi que, comme la France n'expulse jamais ses citoyens, le fait pour lui d'être français est une protection, puisqu'à ce moment-là même, il est sur la liste rouge d'Interpol. D'ailleurs, je consulte le site internet d'Interpol. Effectivement, il y a une liste rouge où il y a Kim Woo-chung.
Il est poursuivi pour quoi, là?
Il est poursuivi pour détournement de capitaux à hauteur de 2 milliards de dollars. Enfin, il y a beaucoup de chefs d'accusation, hein, je crois. Oui, oui.
Le siège d'Interpol se trouve où?
Oui, c'est le paradoxe, parce qu'en fait, Kim Woo-chung se réfugie en France, où il ne craint pas l'arrestation, et en même temps, le siège d'Interpol est à Lyon, donc juste à côté. Ça se trouve, il aurait pu habiter juste en face, ça aurait pas fait une différence.
Qui a signé ce décret pour qu'il soit naturalisé français?
Alors, c'est Philippe Séguin, à l'époque, qui était ministre des Affaires Sociales, parce que c'est sa fonction. De toute façon, pour qu'un étranger soit naturalisé de manière aussi rapide, il faut qu'il y ait une personnalité très haut placée qui le propose et qui soutienne. C'est effectivement très bizarre, encore plus étrange, le fait que Alain Juppé ait remis la croix du commandeur de la Légion d'honneur à Kim Woo-chung, tout en cachant le fait qu'il avait été, lui et sa famille, naturalisé français quelques années plus tôt. D'autant qu'à l'époque, il a été condamné pour avoir donné un pot de vin au président de la République, et il s'est sorti, bien sûr, comme il se sort toujours des affaires. C'est-à-dire, c'est quelqu'un, sa technique, c'était d'avoir toujours du cash sur lui, et il arrosait partout, hein. Il faisait des affaires dans les pays comme le Kazakhstan, la Libye, la Pologne, etc. Et sa technique, c'était ça, de toute façon. Donc,
c'est-à-dire que pour obtenir des entreprises dans les différents pays que vous avez cités, tout comme en Corée du Sud, il s'agissait de corrompre le pouvoir politique?
Alors, c'est sa technique qui a été décrite comme telle par par des tas de gens, y compris ses proches.
Donc là, vous êtes en train de relire un papier.
J'ai un petit peu oublié quand même. J'ai un petit peu oublié ce que j'avais écrit à l'époque. Donc, oui. Kim Il-sung transportait toujours avec lui des grosses sommes d'argent qui lui servaient à faire du lobbying. Voilà, c'était un ancien haut responsable de Daewoo, cité par Business Week, le magazine américain, qui a raconté ça en 2001. Oui, parce qu'en même temps, au moment donc où Daewoo prétendait acheter Thompson, malgré tout, Kim Il-sung était quand même aussi sous le coup d'une inculpation pour corruption, quand même. Hein.
Et quel était l'intérêt du gouvernement français à vendre Thompson pour un franc symbolique à un groupe dont vous vous doutiez de la solidité?
Bon, bah là, c'est le mystère. Hein. C'est vraiment mystérieux parce que effectivement, il s'est révélé que Thompson avait juste besoin d'une petite injection de capitaux pour faire fructifier les investissements précédents qu'il avait fait dans les nouvelles technologies. Puis finalement, c'est un groupe qui marche très bien. Du coup, on se demande vraiment pourquoi Juppé voulait vendre Thompson et spécifiquement à Daewoo, qui était quand même un des groupes les plus bancals, en fait.
On a Kim Il-sung qui s'installe en Lorraine, où il y a quelqu'un qui sera ministre, qui est Gérard Longuet, ministre PR. Il est fait naturaliser par Philippe Séguin, qui est à l'époque ministre RPR. Il y a Alain Juppé qui veut céder Thompson, qui lui aussi est premier ministre RPR, et qui est le fait commandeur de la Légion d'honneur. Enfin, comment vous expliquez ces coïncidences? Ce n'est que des coïncidences.
Bah, de toute façon, rien que l'alignement de ces faits-là fait que n'importe qui doit se poser des questions. Moi, ce qui m'a vraiment très très étonné, c'est que tous ces faits étaient mis noir sur blanc dans mon article. Je me disais le lendemain, il y aura des questions à l'Assemblée nationale. Il y a rien eu. J'ai un peu baissé les bras en me disant, bah, c'est bizarre, ça intéresse personne cette histoire. Enfin, à quoi bon continuer? La France me semble être un pays quand même de l'omerta sur ce genre de choses. Voilà.
Alors, Sherman Kim est poursuivi par Interpol. Il est poursuivi également par les syndicats dans son pays, en Corée du Sud. Il est poursuivi aussi par la justice de son pays. C'est un champion toute catégorie du pot de vin. En 1995, en Corée du Sud, en Corée, il a été condamné pour corruption du président sud-coréen, Monsieur Ro Tae-woo. Pendant 4 années, il a corrompu le président de la Corée de 1989 à 1993. Donc, il est naturalisé français en 87. Et comment ça fonctionne? Comment obtient-on cette naturalisation? Alors, on a appelé le ministère de l'Intérieur pour savoir quel est le procédé, le processus, et on nous a donné quelques indications en nous conseillant d'appeler n'importe quelle préfecture. Alors, François Ruffin a appelé la préfecture de Nice. À Nice, oui. Parce que, pourquoi? Parce que Monsieur Kim, il y a une résidence, il a d'autres résidences en France, mais il en a une aussi à Nice. Téléphone.
Préfecture de Nice, bonjour.
Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. J'aurais voulu avoir le service des naturalisations, s'il vous plaît.
Okay, bonjour.
Oui, je suis bien au service des naturalisations.
Non, non. Que voulez-vous savoir, monsieur?
Écoutez, je suis journaliste pour France Inter.
Journaliste, vous?
France Inter.
Et c'est bien.
Pardon?
C'est bien, je dis.
Bah non, c'est un métier, vous savez.
Bah oui, c'est un bon métier. Bon, c'est bien. Bon, alors, ceci dit, parlons des nattes.
Pardon?
Parlons des naturalisations.
D'accord. En fait, j'ai téléphoné au ministère de l'Intérieur qui m'a dit plutôt de m'adresser à une préfecture au hasard, quoi. Et donc j'ai fait celle de Nice. Je voudrais savoir comment on devient français quand on ne parle pas français, quand on ne réside pas en France et lorsqu'on n'a pas d'ascendant français.
Ben là, c'est comment? Attendez. Naturalisation. Normalement, il faut posséder un titre de séjour et résider de manière continue depuis 5 ans.
Oui, ben alors.
Donc là, alors à part la réponse c'est ça. La condition c'est avoir un titre de séjour et résider en France de manière continue depuis 5 ans, sauf pour les étudiants où le délai est réduit à 2 ans.
D'accord, mais si jamais on n'a pas résidé en France jamais.
Ben on ne peut pas avoir la nationalité française.
Ben, écoutez, je vous dis ça parce que en fait, je cherche à comprendre en fait dans un dossier, il y a eu une personne qui a eu la nationalité française sans avoir résidé en France, quoi.
Mais qui a eu quelle nationalité française ?
Oui.
Elle était. Attendez, quelle nationalité avait-elle cette personne au départ, on va dire, hein ?
Elle était coréenne.
Coréenne ? Elle n'a pas résidé en France ?
Non, jamais.
Je sais pas. On va vous passer quelqu'un. Hein. T'inquiétez pas. Quittez pas.
Je vous remercie.
Quittez pas.
Je vous remercie.
Oh.
Oui.
Bon, on a personne en naturalisation. Est-ce qu'elle n'aurait pas eu la nationalité française par mariage ?
Pas du tout, non.
Je suis en train de me poser la question, je sais pas.
En revanche, sa femme et ses enfants ont été naturalisés français également.
Bon, donc ça, là... Sa femme et ses
enfants. Deux enfants.
Donc elle aurait pu l'obtenir, oui, voilà, par ce biais-là. Lui,
non, parce qu'ils étaient coréens aussi. Ils ont été tous les quatre naturalisés français en même temps.
Ça, ça paraît bizarre, hein. Et c'est qui vous a demandé de nous appeler ? Le ministère de l'Intérieur ?
Tout à fait, oui.
Le ministère de l'Intérieur ne sait pas répondre à ça ?
Ben, écoutez, ils ont dit, appelez une préfecture.
Pourquoi les Alpes-Maritimes ?
Ah ben ça, après, c'est moi qui, si vous voulez, on me dit...
Ah, vous avez choisi la préfecture.
On me dit appeler une préfecture au hasard.
Ah, très bien fait. Allez, c'est bien. Bon, on va voir avec une autre personne, on prend un chef de section. Hein, quittez pas.
La ligne de votre correspondant est momentanément occupée. Nous nous efforçons d'écourter votre attente.
Allô ?
Oui.
Bonjour monsieur.
Bonjour, excusez-moi de vous déranger.
Oui.
Je cherche à avoir des renseignements à propos de comment on devient français, un processus de naturalisation. Quand on ne parle pas français, quand on n'a jamais résidé en France et quand on n'a pas d'ascendant français.
Ben oui, non, mais là le problème c'est que quand on n'a jamais résidé en France, ça me paraît difficile et qu'on n'y réside pas, ça me paraît difficile de demander la nationalité, quoi. Je veux dire c'est inconcevable, quoi.
D'accord.
Il faut voir les cas, il y a des cas, mais c'est des cas bien déterminés, des gens qui ont travaillé à la Légion étrangère ou des trucs comme ça, quoi. C'est des cas particuliers. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir le cas.
D'accord. Je vous remercie beaucoup, madame, en tout cas.
Au revoir.
Au revoir et bon après-midi.
Pas facile, hein ? Pas facile du tout d'avoir des précisions. Alors, une autre chose un peu étonnante dans ce dossier, c'est comment Monsieur Kim est devenu commandeur de la Légion d'honneur. Commandeur de la Légion d'honneur en 1996, eh bien, on a appelé, François Ruffin a appelé la grande chancellerie de la Légion d'honneur.
Allô ?
Allô, oui, bonjour. Je suis bien à la grande chancellerie de la Légion d'honneur.
Oui, bonjour, monsieur.
Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je suis journaliste pour France Inter. Et en fait, je cherche à savoir comment on devient commandeur de la Légion d'honneur.
Avant de passer commandeur de la Légion d'honneur, on est nommé chevalier de la Légion d'honneur avant. On passe pas commandeur de la Légion d'honneur comme ça.
Et il faut combien de temps pour, entre l'un et l'autre ?
Alors, écoutez, je vais vous passer un technicien, hein, parce que, oui, il y a des délais, mais il y a surtout qu'il faut des mérites nouveaux.
D'accord.
Ne quittez pas, hein.
Je vous remercie beaucoup, madame.
Nous recherchons votre correspondant et vous prions de bien vouloir patienter quelques instants. Merci.
Allô ?
Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, je suis journaliste pour France Inter.
Oui.
Et en fait, je m'intéresse au dossier d'une personne qui s'appelle Kim Hong-chung, et qui a été fait commandeur de la Légion d'honneur en 1996. Alors, votre collègue m'a dit que normalement, il y avait 5 ans entre le moment où on était officier et le moment où on était commandeur.
Ça, c'est valable uniquement pour les Français et les étrangers résidant en France. Pour les nominations à titre étranger, pour des étrangers résidant à l'étranger, il n'y a pas la condition de passer par tous les grades ou dignités de l'ordre.
Mais alors, cette personne était française ?
Elle était... Si il est français, là, effectivement, là, il n'y a pas de... Donnez-moi les éléments exactement, l'état civil de ce monsieur.
Cet monsieur s'appelle Kim. Alors Kim. Alors en principe en coréen, Kim c'est le nom de famille.
D'accord. Kim Bouchong.
Et alors normalement il était fait commandeur de la Légion d'honneur.
Et vous me dites qu'il est français.
Voilà. Le 28 mai 1996.
Parce que moi j'ai aucun Kim là. Est-ce que je suis bien? Oui. K-I-M, hein.
Oui.
Moi, j'ai aucun Kim là, Kim Bouchong. Alors peut-être qu'on l'a mis à Wushong, on va essayer. J'ai pas plus de Wushong.
Bon. Est-ce que il y a ou dans votre base de données il y a
ce que je peux faire, c'est vérifier s'il n'a pas été nommé à titre étranger comme je le soupçonne.
D'accord.
Hein. Donc si vous ne quittez pas, il est coréen, hein, vous me dites.
Il est d'origine coréenne. D'accord. Aujourd'hui, il doit avoir la double nationalité.
Donc je vais vérifier, ne quittez pas.
Je vous remercie.
Allô?
Oui.
Oui, il est commandeur, mais à titre étranger. Il a été fait commandeur par un décret du 12 mai 1995, au titre des affaires étrangères, comme président de la société des OU.
D'accord. Donc, mais il n'y a aucun moyen de lui ôter sa distinction?
Pour les étrangers, pas à ma connaissance. Hein. On a eu le cas avec le général Noriega ou avec d'autres personnalités qui se sont révélées peu recommandables.
Et donc là, vous leur avez ôté la distinction?
Oh, non, ce sont des nominations à titre étranger qui relèvent plus de la diplomatie vraiment que de des règles de l'ordre, et donc on n'applique pas de discipline aux étrangers.
D'accord. Parce que là, cette personne est recherchée par Interpol.
Oui, maintenant que je vois qu'il s'agit du président de la société Néou, oui, je me doute de l'objet de votre appel. Mais je vous dis ce qu'il en est.
D'accord. Le fait qu'il soit français, il était français.
Oui, mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que le décret l'a nommé à titre étranger.
D'accord. Mais donc, comment ça se fait que, bien qu'étant français, il est nommé à titre étranger?
Parce que nous ignorions sa nationalité française.
Et même la personne, en l'occurrence, il devait s'agir de Monsieur Alain Juppé, qui a souhaité sa nomination, ignorait qu'il était français?
Oui, c'est probable. Parce que si c'était apparu, on l'aurait tout de suite signalé, et il n'aurait pas pu être nommé commandeur direct.
Très bien. Bon, bah écoutez, monsieur, je vous remercie beaucoup pour ces explications, quoi.
Je vous en prie.
Merci, au revoir.
Mais où est-il? Où est-il, monsieur Kim Wushong, le Sherman Kim, recherché par Interpol, recherché, poursuivi par la justice de son pays et par les syndicats de son pays qui aimeraient bien le voir un petit peu de temps en temps? Eh bien, nous apprenons qu'il est tout simplement en France. On a des sources, notamment Denis Robert, notre collègue, et monsieur Jean-Claude Fête de Longwy, qui nous disent, mais il est tout simplement en France, et il travaille pour une entreprise qui s'appelle LOHR, L-O-H-R, quelque part dans l'Est, en Alsace, et là, il dispense ses conseils. Alors, eh bien, François Ruffin appelle la société LOHR.
Industrie, bonsoir.
Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je travaille pour le France Inter et en fait, je cherche à joindre monsieur Robert LOHR.
Ah, un instant.
Je vous remercie.
Un instant, hein.
Oui, je vous remercie.
Allô?
Monsieur LOHR?
Oui.
Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je suis François Ruffin, je suis journaliste pour France Inter. Et en fait, je vous appelle à propos de l'ancien patron de DEU, monsieur Kim Wong-chung. J'ai appris qu'il travaillait pour votre société.
Bon, il travaille pas pour notre société. C'est un de nos nombreux conseillers. Hein.
D'accord. Donc, il travaille de temps en temps, enfin, de manière irrégulière pour votre société.
Non, il travaille pas. Ça ne m'aide pas à... Bon mot, travailler, c'est... Il nous donne des conseils.
D'accord, mais il est rémunéré pour ses conseils, malgré tout.
Bah, je ne vois pas quelqu'un... Il y a beaucoup de conseils qui sont rémunérés. Hein.
Oui, d'accord. Donc, en fait, il travaille quand même pour votre entreprise. Vous savez que il y a un mandat d'arrêt qui a été lancé par Interpol à l'encontre de M. Kim Wong-chung?
Bon, je pense je pense pas qu'il y a un mandat d'arrêt, puisqu'il est tout à fait libre, hein, il se mouvre librement, il va librement partout, hein.
Mais vous avez, savez qu'il est néanmoins poursuivi dans son pays, qu'il a fui son pays, parce qu'il est accusé de...
Non, écoutez, je ne crois pas qu'il ait fui son pays, puisque je l'ai rencontré là-bas.
Mais en quelle année?
Quand année? Il y a quelques mois, hein.
Ben là, je vous assure qu'il a fui son pays en 1999 et il y a un mandat d'arrêt qui a été lancé par Interpol en 2001.
Ah ben, je ne le crois pas. Je l'ai jamais autrement que libre. Hein.
Oui, je dis pas qu'il soit pas libre en France, mais vous savez néanmoins. Mais
je l'ai rencontré en Corée, hein, tout à fait officiellement. Hein.
Mais il y a combien de temps?
Il y a quelques mois.
D'accord. Mais vous savez pas qu'il est poursuivi pour corruption, que Interpol a lancé un mandat d'arrêt parce qu'il est recherché pour avoir détourné 2,4 milliards de dollars?
Non.
Vous savez rien de tout ça?
Non. Non. Je vois vraiment pas où il y a un problème. Je l'ai vu partout libre, en France, en Corée, en Chine, au Japon, hein. Partout. Quand je l'ai rencontré tout à fait librement, hein.
Vous n'avez jamais été au courant de cette histoire. Pourtant, la Lorraine n'est pas loin de l'Alsace. Et en Lorraine, il y avait 3 sites d'EU qui ont fermé. À la suite de ça, il y a eu des recherches faites à propos de Kim Wong-chung.
Bon, écoutez, je n'ai pas été au courant de ça. Écoutez, c'est monsieur Kim que je connais depuis longtemps. Il a créé la société d'EU avec 23 personnes. Il y avait 23 personnes, et quand il était, quand sa société était en difficulté financière, il avait créé plus d'un million d'emplois. Ça, c'était aussi une réalité. Hein.
Vous n'avez pas eu de difficultés administratives pour l'embaucher?
Aucun. Moi, je n'ai aucun problème avec lui. Hein. C'est un monsieur qui nous donne des conseils sur le sud-est asiatique et qui le connaît bien. Hein.
Et qui vous aide à obtenir des marchés dans ce cadre-là?
Écoutez, vous savez, ça va être très simple, on peut être beaucoup plus direct. Si vous voulez me faire dire qu'on le paye et que lui qui nous apprend de comment traiter les marchés, c'est pas le cas. Hein.
Écoutez, Monsieur Lorge, je vous remercie en tout cas, puis je vous souhaite une bonne soirée.
Merci.
Au revoir. Vous êtes une équipe de télévision coréenne. Pour quelle raison vous êtes venu à France Inter?
저희가 이제 사전에 그 취재를 하는 과정에서 로베르로 회장의 그 말 바꾼 사실에 대해서 이제 알게 됐고 그 리베라시온 기자를 만나고 이제 만나면서
On est venu d'abord pour vérifier l'information de Pivoli à Libération. Surtout Robert Lor, il a dit il a rencontré à Seoul Kim Woo-jung. C'est pour ça on est venu à France Inter pour écouter pour vérifier cette information.
그런 고통들을 많이 받고 있어서 과연 지금에 와서 김우중을 돌아보는 것이 어떤 의미를 갖게 됐을지 우리 고민하다가 이번에 방송을 준비하게 됐습니다.
Ça pose un grand problème dans l'opinion publique coréenne. C'est pour ça on est venu en France pour vérifier ce qui s'est passé ici en France.
아까 말씀하신 대로 김우중 씨가 한국에서 로르 회장을 만났다는 게 사실이라면은 한국에 이제 출입국을 할 때 기록이 남았을 테고 뭐 프랑스 여권을 쓰고 있다고는 하지만
시세불에 l'information indiquant Kim Woo-jung entré à Séoul ça posera grand problème parce que depuis quelques années il est recherché par la justice coréenne. S'il est entré ça veut dire il y a certaines complices dans le milieu de politique coréenne. Donc on voudrait savoir pourquoi on protège ces personnes qui posent grand problème dans l'économie coréenne.
Alors, quels sont les problèmes en fait qu'a posé monsieur Kim Woo-chung?
Quels sont les problèmes qu'a posé monsieur Kim Woo-chung? Eh bien voilà, c'est toute la question. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à la suite des déclarations de monsieur Lor que vous venez d'entendre, il dit avoir rencontré en Corée il y a quelques mois, il le dit et il le répète, vous l'avez entendu, eh bien il y a eu un grand émoi dans la presse, jusqu'à la presse coréenne, et cette équipe de la presse
presse coréenne, de la télévision coréenne, est venue essayer d'avoir des précisions. Alors évidemment, c'était prévisible, dénégation de Monsieur Laure qui dit non, il y avait une erreur. En fait, je l'ai rencontré ailleurs, en Asie. Voilà, nuage de fumée pour l'instant dans cette sur cette voie. Mais quelqu'un nous intéresse aussi beaucoup dans cette affaire Laure, c'est évidemment Monsieur Alain Juppé, qui était ministre des Affaires étrangères lorsque Monsieur Kim Woo-chung est naturalisé et qui en 1996 lui remet le fait commandeur de la Légion d'honneur. Donc voilà quelqu'un qui pourrait nous apporter des précisions et peut-être avec le recul des analyses. Donc François Ruffin appelle Monsieur Juppé.
Alain Juppé.
Je ne veux pas que le contribuable français, c'est-à-dire vous, moi et chacun, parce que c'est tous les impôts qui y passent, continuent à payer des dizaines de milliards pour des entreprises qui sont mal gérées. Thomson Multimédia, je le répète, ça vaut un franc symbolique après recapitalisation, parce que dans l'état actuel des choses, ça ne vaut rien. Ça vaut des dettes. Ça vaut 14 milliards de dettes. Or, dans l'accord qui a été conclu, nous avons veillé à ce que l'aspect essentiel pour moi, qui est l'emploi, soit bien pris en considération. Et le repreneur de cette entreprise, oui, il a pris deux engagements. Le premier, d'installer son siège social en France. Nous aurons ainsi le siège social de la première entreprise de fabrication de téléviseurs, pour dire les choses simplement, européenne et même mondiale, je crois. Et deuxièmement, non seulement de maintenir l'emploi, mais de créer 3000 emplois nets, je crois, au cours des années qui viennent.
Ne quittez pas, s'il vous plaît. Ici la présidence de l'Assemblée nationale, nous vous prions de bien vouloir patienter. Ici la présidence de l'Assemblée nationale, nous vous prions de bien vouloir patienter.
Allô ?
Oui, bonjour.
Oui, excusez-moi.
Oui. Il n'y a pas de souci. En fait, bon, je suis journaliste pour France Inter. Là, je suis un peu surpris parce que...
Vous êtes monsieur ? Attendez, j'ai pas entendu.
Je suis François Ruffin, je suis journaliste.
Ah oui. Je suis désolée, mais je n'ai pas de réponse pour vous. Il ne tient pas du tout à sortir de son silence médiatique.
Alors, attendez, je comprends pas. Je
comment
suis bien...
ça, vous ne comprenez pas ?
Non, je suis bien au secrétariat IA de Monsieur Juppé.
Oui, d'accord, tout à fait.
Mais là, je croyais... En fait, il y a de la musique, c'était la musique de l'Assemblée nationale.
Bah oui, c'est tout à fait ça.
Ah bon, le secrétariat de Monsieur Juppé est à l'Assemblée nationale ?
Bah, monsieur, vous savez très bien que Monsieur Jean-Louis Debré nous a hébergés très gentiment à l'hôtel de la présidence.
Ah non, j'ignorais ça.
Voilà.
Donc Monsieur Juppé souhaite pas expliquer pourquoi il a remis la Légion d'honneur à Monsieur Kim Woo-chung.
Bah écoutez, je ne vois pas pourquoi il s'exprimerait là-dessus.
Bah parce que quand même, enfin je sais pas, quand on a remis une haute distinction comme ça à quelqu'un qui l'année d'avant a été condamné pour corruption dans son pays, je trouve qu'il est normal que...
Mais attendez, monsieur, il l'a remis en quelle année ?
En 1996.
Et pourquoi vous posez cette question en 2005 ?
Bah parce que si vous voulez, monsieur Kim Woo-chung a depuis été à nouveau condamné dans son pays.
Je suppose que depuis ce temps-là, il ne doit plus avoir le droit de la porter, puisqu'il y a des règles très strictes.
Si, j'ai téléphoné
à la chancellerie.
Voilà, et qui m'ont dit qu'il n'y avait pas de possibilité de lui ôter, quoi.
Ah, alors là, ça, moi, je ne peux pas vous répondre sur ce point, et monsieur Juppé ne souhaite pas s'exprimer.
Et sur le fait que monsieur Juppé voulait vendre pour...
C'est pareil, de toute façon, c'est n'importe quel sujet, et il a décidé qu'il ne s'exprimait pas dans la presse actuellement, et donc il ne veut pas déroger à cette règle.
Si vous voulez, parce que le problème, c'est que monsieur Kim Woo-chung, là, il est poursuivi pour avoir détourné 2,4 milliards de dollars. Il avait la réputation de transporter des valises. Je vous dis les choses très clairement. Il avait la réputation de transporter des valises.
Écoutez, vous faites un message écrit à monsieur Juppé à ce moment-là. Peut-être voudra-t-il vous répondre par écrit. Voilà.
D'accord. Et je dois l'adresser à quelle
À l'Assemblée nationale, à l'hôtel de la Sée, 128 rue de l'Université.
Je croyais que Monsieur Juppé était privé de mandat, c'est assez étrange.
Mais monsieur, vous me posez des questions qui sont vraiment étranges de votre part. Parce que tout le monde le sait très bien qu'il n'a plus effectivement de mandat. Je viens de vous expliquer que nous étions hébergés très gentiment. Et ça, toute la presse le sait. Donc je ne comprends pas pourquoi vous me reposez cette question de cette manière.
D'accord, bon, bah, excusez-moi.
Non, c'est rien.
J'ignorais.
Mais moi, je vous le précise.
D'accord.
Donc le courrier arrive là.
D'accord. À l'Assemblée nationale, donc.
Absolument.
D'accord, très bien. Bah, écoutez, je vous remercie, madame. Puis je vous
au revoir, monsieur.
Une bonne après-midi. Au
merci.
Revoir.
Merci à tous, merci à Kamel Belkadi, Jean-Claude Fête, Patrick Gaspard, Philippe Grandjoureau, François Bon et la secrétaire de Monsieur Juppé, sans oublier Denis Robert. C'était un reportage de François Ruffin. À voir le documentaire de Denis Robert, l'affaire Clearstream, expliqué à un ouvrier de chez Diwu. Pour soutenir Kamel Belkadi par email, nancy-lutte.net-soutien.kameldiwu. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. Technique aujourd'hui, Olivier Ruyotor et Rémi Quincèze. L'équipe de Là-bas si j'y suis, c'est Antoine Chao, c'est Yann Chouquet, c'est Pascal Le, Pascal Yello et c'est Christophe Imbert. Le numéro du répondeur, c'est le 01-56-40-37-37, 01-56-40-37-37. Le mail, daniel.mermer@radiofrance.com. On se retrouve demain à 17h pour Là-bas si j'y suis, dans 53 secondes à peine. Vous retrouvez Frédéric Bonneau pour Charivari. Salut, à demain.